qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Pire que magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 3 mai 2017, il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, affichage sauvage, la ville de Toulouse met les partis à l'amende.
Ensuite, 3 militants kurdes et turcs menacés d'expulsion.
Manif au Venezuela.
Et encore un militaire français accusé d'abus sexuels sur des enfants.
Et mais pour commencer, une petite rubrique Monde de merde.
Alors, la première brève, c'est une question, ce serait peut-être une brève du désordre, puisqu'il y a une semaine dans l'Aisne, une personne a été condamnée à un mois ferme pour avoir volé 20 centimes. C'est chaud, l'Aisne.
Waouh!
Donc, il s'est fait prendre la main dans le sac, hein, 20 centimes. Il a volé une pièce dans le véhicule d'un garagiste, mais pas n'importe quel garagiste, un garagiste travaillant pour la gendarmerie. Donc, ce véhicule était stationné devant la gendarmerie. Ça, c'est peut-être le côté pas malin de l'histoire. Mmh. Voilà. Bon, et en tout cas, il était devant la gendarmerie, le véhicule. Et le mec, il sortait de Pôle emploi. Et puis, il a vu que le véhicule était ouvert. Alors, il est rentré dedans. Puis, il n'a rien trouvé. Et voilà. Bref, vous voyez une petite histoire complètement banale.
Il a trouvé
banale.
Une pièce de 20 centimes.
Voilà. Sauf qu'il l'a pris, le malheureux. Ah. Et ben voilà, c'est ça qu'il aurait peut-être pas dû faire. Et pourquoi un mois ferme? On pourrait se demander pourquoi un mois ferme.
On peut se demander, parce qu'effectivement, ça semble.
Alors, ce qui pourrait expliquer cela, c'est que le prévenu avait une quinzaine de mentions à son casier judiciaire, dont des vols. Mais bon, donc ça explique, voilà, il a un casier judiciaire, mais quand même, un mois ferme pour 20 centimes, je laisserais plutôt l'explication à une magistrate du parquet. C'est le fruit du hasard que seuls 20 centimes aient été dérobés. S'il y avait eu un billet de 100 euros, il l'aurait pris.
Ah, du coup, il n'a pas du tout été condamné pour ce qu'il a fait, mais pour ce que, si ça se trouve, il aurait pu faire. Mais par exemple... Ouais, c'est ça, vous et moi, selon les circonstances, on pourrait peut-être des fois être amené à faire des choses répréhensibles. Ok.
Alors, un petit mot là. Gilbert Collard, vous savez qui c'est?
Non.
Non, oui. Vous savez pas qui c'est?
Si. en vrai. Bah c'est ouais, un ancien avocat. Ou ça se trouve, il est toujours avocat.
Bon, ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un député Rassemblement Bleu Marine. Et je sais pas, on le voit souvent, on l'entend souvent, on le voit souvent, et d'autant plus dans cette période électorale. Et donc, il était à Nice il y a pas longtemps, et pour la campagne électorale. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à Nice ? Bon, il y a plein de trucs, mais le truc facile.
Pas mal de racistes.
Ouais, il y a la mer. Et dans la mer, il y a quoi ?
Des poissons.
Ouais. Donc, Collard devait, donc comme il est rassembleur bleu marine, il devait critiquer l'Union européenne ce jour-là devant des pêcheurs niçois. Et comment il a fait ? C'est que j'avais oublié une information, c'est qu'il n'avait pas pris de café ce matin-là. Donc, ce qu'il a suggéré aux pêcheurs niçois pour faire le lien entre la pêche et l'Union européenne, c'est que il a suggéré que les poissons morts rejetés à la mer en vertu d'une directive européenne pourraient être donnés aux pauvres. Si, je cite, ces poissons morts, on ne pourrait pas les donner aux pauvres. Voilà la citation exacte, retransmise sur BFM TV. Alors, problème de vue à longue portée, sinon. C'est un homme qui a été tué à Tahiti par un gendarme qui a tiré avec son arme de service. Donc voilà, crime policier, c'est pas le premier. Mais il dit l'avoir confondu, son arme, avec son taser. Ouf. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, quand tu... C'est ton outil de travail, je veux dire, c'est comme, je sais pas, un garagiste.
C'est pas tout à fait comme confondre sa perceuse et sa disqueuse, quoi. Bah,
c'est ça.
En vrai, tu sais, sur toi, t'es un flic, là, t'as sur toi, du côté droit, t'as ton gun, et de l'autre côté, t'as ton taser. Et je trouve ça super gros de dire que tu t'as confondu l'un pour l'autre, quoi.
Ah, ça sent la mauvaise excuse, on est plutôt d'accord, oui.
Voilà, quand même.
Mais c'est vrai que par contre, c'est effectivement le gendarme à qui on n'irait pas demander du feu, quoi. C'est un coup, il confond son briquet avec son taser ou son arme de service.
Dans tous les cas, t'es mal barré. Alors, ouais. Et donc, ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi 29 avril. Et donc, Vetehari Rupea était un jardinier qui avait la trentaine. Il est mort d'une balle dans le thorax, donc tiré par un sous-officier de la gendarmerie. Et en fait, le contexte, c'est que les forces de l'ordre intervenaient pour mettre fin à une bagarre où il y avait de l'alcool, de la jalousie dans un petit village. Et il y avait notamment des enfants sur la scène. Bref, vous voyez c'était pas une course poursuite, c'était plutôt une histoire assez banale. Et voilà. Donc toujours cette grande question, comment peut-on confondre les armes lorsque son métier est d'emporter sur soi en permanence ? Et donc, il y a une enquête qui a été ouverte pour homicide involontaire. Involontaire.
Alors, on revient sur un thème un tout petit peu plus léger, hein. Et on va parler affichage sauvage. Alors bon, normalement, il y a une espèce de tolérance à l'égard des partis politiques pour l'affichage sauvage en période de campagne électorale. Hein, sinon, les partis ne feraient pas autant de collage. Mais à Toulouse, le maire a décidé de taper du poing sur la table et d'envoyer la facture aux différents partis. Bon, à noter que pour l'instant, c'est quand même la seule ville de France qui a fait ça. Et voilà. Alors, ça permet quand même de faire un petit palmarès des plus gros colleurs à Toulouse, en tout cas. Et c'est le NPA qui remporte la palme. Hein. Ils en ont pour à peu près 9000 euros d'amende. C'est pas mal.
Les seuls qui remboursent pas leurs frais de campagne.
Ouais, c'est ça. Suit de près par les Mélenchon. En troisième, on retrouve le PS. Hein. Vous voyez les gars, vous êtes arrivés troisième quelque part. En quatrième, ça fait Nathalie Arthaud. Et finit sa égalité, Dupont-Aignan, hein, qui lui a revendu son amende à Le Pen en échange de ses voix. Et Asselineau.
Oui, j'allais dire, dis donc, parce que ça aurait été à Lyon, Asselineau aurait été en tête, non ?
Et ouais, Asselineau, donc, oui, pour qui c'est bien tout ça, et bien la preuve qu'il existe un complot gaucho-judéo-trompo. maçonnique. Et effectivement, bah, ils se la pètent là dans les articles pour dire qu'ils ont collé je sais plus quoi. Et effectivement, c'est des couleurs fous, quoi. Je pense qu'il y a plus d'affiches que d'électeurs. Ça, c'est quand même à peu près certain. Alors bon, vous allez me dire, et Le Pen, Macron, et il en manque, mais alors, je sais même plus qui. C'est pas très grave. Le Pen et Macron, bon, bah, forcément, le maire de Toulouse a attendu la fin des élections. Et puis, ah bah si, il manque Fillon. Puis là, il a dit, bon, il semblerait qu'il a fait une campagne assez propre. On dirait plutôt que je pense que ces militants ont déserté ces locaux et ont décidé de ne pas coller. Hein. Ils avaient plutôt honte.
Pendant toute la campagne, on a attendu de les croiser sur un marché pour pouvoir rigoler un peu et on les a jamais, jamais vus.
Ah ouais, non, jamais.
Sans doute pareil pour les colleurs d'affiches.
Ah si, moi je les ai vus une fois au marché et c'est vrai qu'ils n'en venaient pas là. Peut-être même pas t'avais envie de leur cracher dessus.
Allez, on repart dans du truc un peu sérieux. Je vais vous parler de trois militants kurdes et turcs qui sont en France, qui habitent en France, qui vivent en France et qui sont menacés d'expulsion vers la Turquie, c'est-à-dire vers le pays des 110 000 fonctionnaires qui ont été suspendus depuis le coup d'État pour ce qu'on imagine être leurs opinions politiques. Des 15 000 personnes au moins qui ont été placées en détention, pareil depuis ce fameux coup d'État manqué, et pareil juste pour des questions d'opinion. Ce pays où le représentant de Reporters sans frontières a été inculpé de terrorisme parce qu'il avait publié des articles sur les Kurdes, où une romancière Asli Erdogan, elle a le même nom de famille que le Premier ministre, le Président, mais rien à voir par ailleurs, a été elle aussi placée en détention parce que son nom apparaissait dans un journal pro-kurde. Donc c'est vers ce pays que la France envisage d'expulser trois militants. C'est parce que aussi c'est quand même des gens sur lesquels la DGSI a des notes blanches, ces fameuses notes blanches. Et donc on les accuse d'avoir fait des choses comme participation à la fête de l'humanité, défilé du 1er mai, manifestation pour la défense des droits des prisonniers politiques, toutes activités qui ont été effectuées de leur part, en tout cas sous le drapeau du Front Populaire de Turquie. Alors on va reprendre un peu les choses dans un autre ordre. Alors d'abord, ces trois militants, c'est qui ? L'un d'eux s'appelle Adem Yildiz, il a 27 ans et lui il a été inquiété en Turquie pour ses activités auprès de ce Front Populaire de Turquie, alors qui est quand même une organisation légale en Turquie, légale mais complètement harcelée par les flics. On va revenir après sur ce que c'est ce Front Populaire de Turquie. En tout cas, lui, il est arrivé en France en 2010 et il a été assez rapidement reconnu réfugié politique. Alors j'aime mieux vous dire que pour être réfugié politique en France, il faut avoir un sacré gros paquet de preuves de persécution et d'injustice des persécutions dans son pays d'origine. Le deuxième dont on va parler, c'est Ilgin Güler, qui est... il est kurde. Et lui, il est en France pour des histoires de regroupement familial parce que c'est sa mère qui, elle, était inquiétée en Turquie. Alors même pas vraiment pour son militantisme personnel à elle, mais parce que elle avait des liens familiaux avec des militants du DHKPC, qu'on peut aussi prononcer si on veut le faire à la turque DHKPC. Donc sa mère qui avait des liens familiaux avec des militants a fini par se barrer et elle aussi a été reconnue réfugiée politique en France, c'est-à-dire qu'elle aussi il fallait qu'il y ait quand même un sacré harcèlement.
Surtout pour préciser quand on vient d'un pays ami, enfin en l'occurrence la Turquie c'est quand même pas...
Oui, alors tout petit peu moins maintenant, mais en tout cas, oui. Au moment où elle est arrivée, enfin où tous ces gens-là sont arrivés, oui, c'était carrément un pays ami. Tout à fait. Et en tout cas, lui, à l'âge de 17 ans, il a pu rejoindre sa mère pour des histoires de regroupement familial. Donc aujourd'hui, ça va aussi changer des choses sur les possibilités de l'expulser. On va voir ça après. Et le troisième s'appelle Mehmet Doğan et lui alors c'est un ancien prisonnier politique kurde en Turquie. Alors lui il faut dire qu'il a passé 22 ans en prison en Turquie. À l'époque, il faisait partie du parti qui s'appelait Devrimci Sol, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, gauche révolutionnaire, qui est l'ancêtre de l'organisation qui s'appelle aujourd'hui DHKPC. Donc Mehmet Doğan, lui, était en prison en 2000, à l'époque des luttes contre les prisons de type F qui ont été des qui a été le moment où on s'est mis à mettre des gens, et particulièrement des militants politiques, en cellules individuelles avec isolation sensorielle, accès réduit au bouquin, à la radio, très très peu de contact humain avec qui que ce soit. Et donc à ce moment-là, il y avait des grosses luttes à l'intérieur des prisons pour éviter ça, et aussi où les prisonniers étaient beaucoup plus à la merci des gardiens que dans les prisons classiques qui existaient jusque-là en Turquie. Prisons dans lesquelles les gens étaient en cellules collectives, et entre autres, à Dément, ça leur permettait aussi de se défendre contre la violence des gardiens. Bon, les luttes en question avaient été vraiment... il y avait eu de gigantesques grèves de la faim, et révoltes dans les prisons. Les révoltes avaient été matées avec des instruments comme bulldozers, gaz fumigène, armes lourdes et lance-flammes. Mmh. On parle bien de gens qui ont été butés à l'intérieur des prisons au lance-flammes. 28 prisonniers étaient morts à cette époque-là. Et puis un gros paquet de gens blessés, de gens qui ne se sont jamais relevés de leur grève de la faim aussi. Et le Mehmet Doğan dont on parle, lui, avait perdu un œil et la capacité partielle de ses mains et de ses bras. Bon, lui aussi est réfugié politique en France. Alors, la procédure d'expulsion, du coup, pour les deux qui sont réfugiés politiques, il faut quand même qu'il soit passé des choses très très graves pour qu'on puisse les renvoyer dans le pays d'où ils sont réfugiés politiques. Et il faut vraiment apporter une preuve de menace de manière imminente pour la sécurité de l'État français. Pour celui qui n'est là que sous le au titre du regroupement familial, il suffit de troubles à l'ordre public. Mais alors, dans tous les cas, ça va être compliqué, puisque les accusations adressées par la Cour sont de l'ordre de... alors, pour Ilgin Güler, donc, qui est réfugié politique, on parle d'absence de travail fixe et déclaré depuis au moins 2 ans. C'est quand même ça qui est dans les arguments dans les arguments juridiques pour l'expulser, et de soutien affiché à un prisonnier politique kurde, mais qui est prisonnier en France, un gars qui s'appelle Erdoğan Cakir. Et lui, alors c'était en 2015, il s'était mis en grève de la faim pour protester contre des fouilles au corps humiliantes qui avaient été rendues systématiques suite à la déclaration de l'état d'urgence en France. Donc en France, ce gars-là s'est mis en grève de la faim. Il faut quand même dire que ce gars-là vient de gagner son procès contre la prison de Villepinte. Et qu'il a obtenu des versements de dommages et intérêts suite aux dégâts causés sur sa personne physique par les 40 jours de grève de la faim. Et donc c'est pour avoir soutenu ce gars-là que Ilgin Güler c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est menacé d'être envoyé. Bon, d'ici à trouver qu'il y a une menace pour la sécurité de l'État, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, on va revenir sur ce qu'il aurait reproché de manière plus précise. Bon, en réalité, tout ça repose sur le soupçon de l'appartenance de ces trois-là à l'organisation DHKPC.
Et juste pour préciser, les flics utilisent beaucoup ce truc de menace à je sais plus comment c'est quoi le terme exact que tu disais là, la sécurité de l'État.
La sécurité de l'État.
Ça permet aussi une espèce de classification qui fait que tout devient confidentiel et t'as le droit de faire plein de trucs sans que les personnes aient le droit de consulter leurs fiches, enfin tout un tas de trucs comme ça qui fait que ça opacifie tout ça, quoi.
Mais là, la commission d'expulsion a quand même été amenée à se prononcer sur ces menaces et du coup a eu accès, on lui a fourni, pour justifier, on lui a fourni les fameuses notes blanches de la DGSE. Et dans ces notes blanches, ce que je disais, c'est que, parce que après, pour plus précisément sur quoi on se base, on va y revenir, mais du coup, tout ça repose sur le soupçon de leur appartenance au DHKPC, qui est une organisation considérée comme terroriste en Turquie et en France. C'est une organisation qui certes a recours à des actions violentes, mais quand même contre l'État, et depuis les années, c'est une organisation qui a été créée dans les années 80 au moment après le coup d'État militaire en Turquie, au moment où de toute façon les morts il y en avait dans tous les sens, et par exemple ils ont buté un gars qui lui-même avait buté 123 prisonniers de ses mains, et du coup après la question de savoir qui est terroriste se posait. De toute façon, il n'y a aucune preuve de leur appartenance au DHKPC, mais par contre, eux, ils font partie, de manière tout à fait assumée, de ce truc qui s'appelle le Front Populaire de Turquie. Et pour les autorités françaises, les gens qui font partie du Front Populaire de Turquie font en réalité partie du DHKPC. Le Front Populaire ne serait que la façade légale, mais les militants de l'un seraient forcément militants de l'autre. Mais en fait, il n'y a aucune preuve de ça. Et le Front Populaire de Turquie, à côté de ça, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, alors c'est un parti marxiste-léniniste, hein, mais ils font des actions du type création de parlements populaires dans les quartiers, avec pour objectif d'accompagner les habitants dans la résolution des problèmes du quotidien, notamment la lutte contre les addictions aux drogues et contre les réseaux mafieux. Bureau de droit du peuple, alors il crée des bureaux de droit du peuple qui proposent des consultations d'avocats libres et gratuites, en Turquie, hein, tout ça. Ils ont aussi un truc qui s'appelle les architectes et ingénieurs du peuple qui mettent leur savoir et compétences au service des plus modestes, avec par exemple comme projet la construction d'éoliennes pour alimenter les foyers en électricité ou le développement de jardins éducatifs en ville. Ouh, danger pour la sécurité de l'État turc et alors encore plus de l'État français, dites donc. Bon, mais c'est pas que ça, parce que les notes blanches de la DGSI parlent aussi pour les trois personnes dont on parle là. Alors attention, ils ont participé à de nombreux événements en France sous le drapeau du Front Populaire de Turquie, comme le cortège du défilé du 1er mai, alors je ne sais pas combien vous êtes à m'écouter, qui risqueriez d'être expulsé si vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas français. Hein. Ils ont animé chaque année le stand du Front Populaire de Turquie à la fête de l'humanité. Et puis attendez, ils n'ont pas fait que ça, ils sont allés au concert de Grup Yorum. Et ça, Grup Yorum, c'est bon. Alors pour le coup, c'est un groupe de musique. C'est un groupe turc de musique. Bon, disons de musique marxiste-léniniste. Hein, hyper bien. Je veux dire de la super bonne musique et des belles paroles finalement, mine de rien. Mais quand même un groupe extrêmement populaire. Hein. Quand ils viennent en concert en France, ça déplace des centaines de personnes. Mais quand ils sont en Turquie, ça déplace des centaines de milliers de personnes. Et les gens, ils vont en famille et il y a les grands-mères, il y a les petits-enfants et tout ça, quoi. Bon, bah eux, ils sont allés à ces concerts. On leur reproche en plus de participer à la vente d'une revue. Alors c'est une revue légale, hein, qui est une revue marxiste, enfin qui parle de Turquie et de marxisme. Hein. D'avoir participé à un camp de vacances de la gauche turque, légal aussi. Mais la DGSI n'a rien trouvé d'illégal à leur reprocher. Finalement, ce qu'on leur reproche, c'est quand même bel et bien d'être militant et surtout d'être militant étranger. La présidente de séance, lors d'une séance de la commission d'expulsion pour celui qui s'appelle Ilgin, lui a dit « Vous faites passer vos activités militantes avant le principe de réalité qui est de travailler pour vivre. » Celui-là, c'est celui qui est au chômage depuis plus de 2 ans. Donc voilà, en l'occurrence, il risque d'être expulsé. Donc expulsé vers la Turquie d'Erdogan, celle où il risque d'aller directement en prison, d'être torturé, d'être condamné à des dizaines d'années, ou d'être pas condamné, mais de se retrouver en prison pour extrêmement longtemps, parce qu'il milite avant de travailler. Bon, en Turquie, il risque donc énorme. Et alors, il se trouve que ce Ilgin Güler, c'est un hasard, mais ça permet aussi de reparler d'elle, le mec de Sevil Sevimli, qui est elle aussi une militante de cette mouvance marxiste-léniniste reliée plus ou moins d'une manière ou d'une autre au DHKPC. Sevil Sevimli, dont on avait parlé ici, dont on avait pas mal parlé, il y a 3 ans par là, qui, elle, par contre, était surtout française. Elle avait la nationalité française, de parents turcs, etc. Et elle, à un moment, elle est allée faire un séjour Erasmus en Turquie. C'était en 2012, du coup, c'était il y a 5 ans. Et là, elle avait été arrêtée avec, on lui reprochait les mêmes faits. Les autorités turques, pour le coup, lui reprochaient d'avoir participé au défilé du 1er mai, d'avoir participé au concert de Grup Yorum et d'avoir fait de la propagande en faveur de la gratuité de l'éducation. Bon, mais alors elle, quand elle avait été arrêtée, par contre, elle risquait 32 ans de prison, et là, ça avait quand même fait un truc un peu balèze. Même Le Progrès, le journal Le Progrès, qui n'est pas complètement connu pour son antiracisme ou son militantisme pour des causes progressistes, nous avait fait des pleines double pages sur elle, parce qu'elle était lyonnaise, elle était française, Et en l'occurrence, ça avait quand même fait une sorte de gros gros machin. Alors, d'un côté, elle était française et eux ne sont que, eux n'ont pas la nationalité française. D'un autre côté, ce qui s'est passé en 5 ans, c'est que la France aussi a déployé un arsenal législatif antiterroriste qui, ma foi, l'aide peut-être à avoir un peu de compréhension pour ceux de Erdogan.
Info beaucoup plus courte pour parler des manifestations au Venezuela. Je vais en parler de manière courte parce qu'on en a parlé plus longuement la semaine dernière. Mais en tout cas pour dire qu'effectivement, la manif du 1er mai a rassemblé énormément de gens au Venezuela. Il y avait un appel assez large pour y aller et il a été suivi. Et l'opposition a appelé aussi à une grande manifestation aujourd'hui, ce mercredi 3 mai 2017, contre le projet de nouvelle constitution du président Maduro. Parce que Maduro, le 1er mai, a fait l'annonce, et cette annonce a eu l'effet d'un pavé dans la mare. Mais du coup, lors des manifestations organisées du 1er mai, Nicolas Maduro a annoncé la convocation d'une assemblée constituante. Elle sera chargée de rédiger une nouvelle constitution appelée à remplacer celle de 1999, mise en place sous la présidence de Hugo Chavez. Et alors ça a fait son truc, puisque ça a été un peu surprise, personne s'y attendait, personne ne demandait cette nouvelle constitution. Alors lui a garanti qu'elle allait être faite dans la représentativité, avec des personnes élues par le peuple, etc. Mais ça a mis pas mal de gens quand même en colère, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés massivement aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore ces manifestations ont été suivies, mais on peut imaginer, puisque le Venezuela est plongé, on va dire, dans une crise politique avec des manifestations presque quotidiennes depuis le début du mois d'avril. Donc on imagine que ça a continué sur sa lancée, voire ça a réamplifié vu l'annonce du 1er mai. Et aussi en parallèle, il y a les journalistes et leurs syndicats qui ont commencé à dénoncer gravement des actes de censure pour les empêcher de couvrir ce mouvement social qui a lieu. Donc voilà, là eux aussi sont remontés, et apparemment il y a aussi une trentaine, 31 personnes qui sont décédées au Venezuela lors des manifestations depuis début avril. Voilà pour un contexte très rapide du Venezuela.
Et pour terminer, on va parler de ce militaire français qui en poste au Burkina Faso au moment de l'opération Barkhane s'est livré à des attouchements sexuels sur des gamines de 3 et 5 ans. Alors il est en France et il est devant la justice, et le parquet a requis 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. En tout cas, ce Sébastien L, on n'a pas son nom de famille. Alors lui, il est incapable d'expliquer ses gestes, il les met sur le compte de l'alcool, du stress et de la mission. Ce qui s'est passé, c'est que, opération Barkhane, Ouagadougou...
Il pouvait juste se bourrer la gueule.
Oui, mais là, il était en opération dans le Sahel. Il a eu une sorte de week-end ou je sais pas quoi là, de permission. C'est ça. Qu'il est allé passer à Ouaga, là, il a traîné dans un hôtel, il s'est baigné, il a rencontré une Française expat. Mariée, ou en tout cas qui avait des gamines dont le père était burkinabé. Bon, il a papoté avec elle, il s'est baigné avec du coup, elle avait une gamine, pardon, il s'est baigné avec la gamine et la copine de la gamine. Bon, il sympathise avec la mère, il passe la journée ensemble, il joue avec les filles, et puis la nana l'invite ensuite à manger des crêpes chez elle, et puis à un moment, il le surprend qu'il sort de la chambre de sa fille, et lui, il dit « Ah, mais je suis allé la consoler, elle était en train de faire un cauchemar ». Le lendemain, cette dame découvre que ce gars a oublié chez elle une caméra GoPro. Alors elle regarde les images et là elle découvre des scènes filmées sous l'eau où on voit des attouchements sexuels sur chacune des deux fillettes. Elle se rend à l'ambassade de France pour dénoncer les faits. Bon, vous allez me dire, c'est une petite histoire à la con, une sorte de fait divers, Alors, il se trouve quand même que là, ils ont été, lui et un autre gars qui était avec lui ce jour-là, ont été immédiatement démis de leur fonction, rapatriés en France. Bon, l'autre gars était mis hors de cause, mais lui est jugé aujourd'hui. On demande contre lui 2 ans avec sursis. Il faut quand même rappeler que cette histoire est arrivée 2 mois après les révélations sur des accusations d'abus sexuels d'enfants en Centrafrique. Mais alors là, par contre, c'est quand même pas du tout le même contexte. C'est que les enfants en Centrafrique, c'était des enfants dans des camps, des enfants qui avaient personne, qui avaient pas de parents, qui étaient des orphelins de guerre, qui étaient confiés à la garde de soldats français, et que là, en l'occurrence, il s'agissait pas d'un militaire ou de 2 militaires, mais il s'agissait, je me rappelle plus, mais quand même d'un bon petit paquet de militaires. Que là, il s'agissait pas non plus de vagues attouchements sous l'eau, il s'agissait réellement de sévices sexuels, je veux dire de viols, tout ce qu'il y a de plus caractérisé. Ah oui, mais alors là, pour l'instant, dans cette enquête-là, l'enquête sur les enfants en Centrafrique, le parquet a requis un non-lieu. On ne sait pas encore où ça sera pour d'autres histoires à un autre endroit de la Centrafrique pour une enquête qui est toujours en cours. Toujours est-il que visiblement, quand on est un ou une enfant qui a affaire à un militaire français, si on a envie que les choses finissent devant la justice, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avoir une maman française qu'avoir une absence de parents.
C'est sûr, mais pour nuancer un tout petit peu ce que tu disais, attouchement ou viol, je veux dire, il y a... C'est la même chose, c'est scandaleux les deux.
Bon, bah, on va pas vous laisser avec plus de générique. Hein. C'est 19h34. On voit derrière le bocal que l'émission Idée Noire est arrivée. Du coup, ils vous rejoindront sur ces antennes d'ici 26 minutes. Merci. Le temps pour vous d'écouter plusieurs minutes de bande continue.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés. Justiça, que justiça.